vous prendrez bien un dernier verre ou le bar poétique de Gilbert Vincent Cabou. Le bar est grand ouvert, Gilbert nous attend pour nous délivrer encore des vers et puis connaître un petit peu mieux des poètes dont celui du jour, début du XXe siècle, qui a aussi connu du beau monde, hein, Gilbert.
Oui, tout à fait. Donc André Frédéric, c'est vraiment un poète plein d'humour. Ce que je vais vous lire, ce n'est pas des poèmes qui alignent les nerfs, mais des petites anecdotes, des très très petites nouvelles de quelques lignes qui sont à la fois pleines d'humour noir, pleines d'humour et pleines de sensibilité poétique. Ce monsieur qui est donc né en 1915 et mort en 1957 a fait beaucoup de choses. Il a même, sans conviction, tenté d'ouvrir une pharmacie à la Garenne-Bézeau. Ben, ça n'a pas très bien marché. Alors il a connu plein de personnes célèbres, Jean Carmet, Tardieu, Jean Chouquet, Honoré Bostel, Jean-Marc Thibault. Il a aussi fréquenté Raymond Queneau, Boris Vian, Jean Danner, Alexandre Vialatte, Philippe Soupeau, c'est pas rien, Raymond Castan et Chaval, avec lequel il se lie d'une véritable amitié. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous invite à passer un bon moment de poésie et d'humour et de tendresse avec cet homme. Rue d'école. Parce que je m'étais trompé d'une minute dans mes calculs annonçant le passage de la grande comète, ma mère me prive de vin. Je suis très tenu à la maison. À 40 ans passés, on contrôle mes lectures, mes relations. Je ne sors pas seul dans la rue non plus. Je ne me plains pas de ces sévérités qu'ont fait de moi un savant. Si je flâne dans les couloirs de l'Institut, mon père à la sortie me menace d'une bonne fessée en rentrant. Je la mérite. Mais c'est aussi à force de coups que j'ai pu établir et vérifier les lois physiques qui ont illustré mon nom. À côté des piles énormes de travaux manuscrits accumulés sur mon bureau qui constituent la somme de mes œuvres scientifiques, le martinet est en bonne place qui veille et j'en remercie mes parents. Pudeur. Et celui-là, il est dédié à Jean Carmet. Elle rougit si l'on parle de chaise pour ce que l'on y pose. Je prends 1000 précautions pour ne pas choquer ma femme. Dès le matin, une lettre la prévient de ma visite possible dans sa chambre pour le lendemain soir. J'entre comme quelqu'un qui se tromperait, m'excusant, revêtu d'un lourd pardessus beige. Ensuite, je dois imaginer 1000 raisons pour le quitter. La chaleur ou qu'il est trempé. En veston, je ne puis éviter que sa rougeur ne soit extrême. Il me faut revenir en arrière afin qu'elle n'éclate pas, m'entourer de rideaux ou me cacher dans la pièce voisine. Je reviens. Elle, enfouie sous les draps, en manteau de fourrure, a repris sa contenance. Je me glisse. Ben non, ce n'est pas commode. Alors je dois partir en voyage. Même la gêne persiste des mois entre nous deux. Bucolique. Le gendarme se mit à penser. Aussitôt, les veines de son cou gonflèrent. Sa face s'empourpra, ses mains se portèrent à son front. Dans sa tête, de petites fusées s'allumèrent quelques secondes. Cela fit une lueur dans la nuit, comme un feu de bivouac vu à la longue distance. Il remua le crâne pour chasser les fumées. Déjà, il se voyait malade, mort. Il y eut des larmes dans ses yeux. Déchirant ses procès-verbaux, il s'assit au bord de la route et, dans le clair de lune, cueillit une petite fleur qui dormait. Il oublia son bicorne en se levant, perdit son sabre dans un pré avec ses épaulettes. Et, s'enfonçant dans le bois, il sentit son cœur se soulever et son corps s'alléger. Des ailes lui poussèrent dans le dos. Il devint papillon blanc, avec une cocarde. Cyclisme, toujours dédié à Jean Carmet. L'archevêque était jaloux du curé. Le curé avait une bicyclette. Parfois, il roulait, lâchant son guidon pour lire son livre de messe. L'archevêque le voyait passer tout noir sur ses roues d'acier devant sa fenêtre, tantôt sifflant, tantôt souriant, grisé de vitesse. Il cornait avant le tournant. Quelquefois, si une oie barrait le chemin, il sonnait avec un timbre placé devant le frein. Le soir, au retour, il croisait des camions lourdement chargés ou d'autres qu'il fallait dépasser qui remontaient vers la ville. C'était le gros klaxon qui marchait sur le côté droit du guidon, à côté de la petite trompe. Quand il faisait beau sur la route le dimanche, les jeunes carmélites s'en revenaient par quatre ou cinq en chantant. Le curé les dépassait en les prévenant au moyen d'un gros lot attaché sur la selle. Pour les encombrements, les foules, les obstacles imprévus, une sirène magnifique fixée au milieu du guidon communiquait à sa pédale gauche. Il avait d'autres accessoires de secours, des trompes marines, une sorte de petit corps qu'il portait sur l'épaule, et même, sur la tête, au-dessus de son chapeau rond, une grande batterie de cuivre avec deux maillots feutrés, dont il ne se servait que rarement, très rarement, pour faire envie à l'archevêque. On continue dans la même verbe. Poème du vicaire. On avait dit au vicaire tout à fait par hasard, « Vous devriez faire de la poésie. » Et le vicaire avait composé un poème, entre autres, dont les deux premiers vers étaient « J'aime la bonne soupe le soir après les vêpres. » Il le montra au curé qui lui dit « Pour la première fois, ce n'est pas mal cette histoire de soupe, mais ça ne rime pas et ça n'a pas de rythme. À mon avis, si vous n'alliez pas si souvent à la ligne, ça serait de la prose. » Et le vicaire concéda qu'il pourrait introduire quelques coupes. Une coupe de vin, ça n'est pas déplacé dans un bon repas et ça rime avec soupe. C'est ennuyé pour les vêpres, dit-il. Je ne vois que cèpe. Mais il manque un R. Est-ce permis ? Ou alors lèpre? Mais comment introduire ce mot dans un morceau si joyeux? Voyez-vous, fit le curé, c'est là la difficulté de la poésie. Et le vicaire haussant les épaules conclut, c'est un jarfaux, et n'en écrivit plus jamais d'autre. Enlèvement. Les Romanichel recherchent les enfants bien gras. Les plus féroces se mettent en quête, et cinq ou six berceaux se vident pendant la nuit dans les villages endormis sans que les parents aient cessé de ronfler sous le gros édredon rouge. Fourrés dans les sacs, les enfants sont conduits dans des carrioles cachées dans les taillis. Le lendemain, l'éducation commence. Il y a ceux qu'on l'on met dans des petits fûts et qui deviendront des nains, ceux que l'on étire sous des rouleaux qui seront des géants, certains qui ne sont bons ni pour les fûts, ni pour les rouleaux, ni pour rien du tout, sont fouettés. La nuit, de rouleaux et tonneaux sortent des plaintes qui se mêlent à celles des parents. Mais les gendarmes, qui n'ont jamais d'enfants, ou alors si frêles, se soucient peu de retrouver ceux-là. Ben, j'espère que vous avez passé un très bon moment.
Ah oui, c'était un bon moment.
Voilà.
On ne s'en lasse pas.
C'est pareil. Hein. Vous pouvez trouver... Là, c'est un vieux livre de poésie 1, mais je suis sûr que vous pouvez trouver les textes d'André Frédéric dans n'importe quelle maison d'édition.
Voilà, qui a eu effectivement des ramifications avec des comédiens, acteurs, un petit peu le monde de la comédie.
À une époque très acerbe, très caustique quand même.
Voilà. C'est vrai. Merci beaucoup Gilbert Vincent Cabou. Rendez-vous la semaine prochaine.
Ouais, je pense que la semaine prochaine, on ira plus dans un classique.
Vous prendrez bien un dernier vers ou le bar poétique de Gilbert Vincent Cabou.